Nous allons continuer cette lecture. Du premier livre des parties des animaux. Où Aristote nous donne quand même là tout un aspect extrêmement intéressant sur la manière dont il invente, pour bien le dire, sa philosophie du vivant. Mais je crois que c'est très important, cette question-là, au point de vue de la pensée d'Aristote, qui est très difficile, de voir le métaxu, il ne faut pas l'oublier, entre philosophie de la nature et philosophie première. Il est toujours un peu ça devant les yeux. Parce que ça, personnellement, ça m'a semblé un des aspects très importants pour la philosophie d'Aristote. Vous avez la physique. Bon. Aristote est en face, là, de ceux qui ont refusé la physique. On sait bien, Héraclite, Pantareille, si tout coule, si tout est en mouvement, il n'y a pas de science de ce qui est mu. Et Platon refuse. Donc Aristote arrive à montrer qu'il y a une philosophie de ce qui est mu. Tout le monde est d'accord que c'est la grande découverte d'Aristote. Gilson n'hésite pas de dire que c'est cela qui commande tout l'aristotélisme. Nature, forme, nature, matière. Autrement dit, la réhabilitation de la matière dans le monde de ce qui est. Puisque pour Platon, la matière est une non-être. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est très important, puisque par là, Aristote même donne un fondement à la philosophie spéculative. La nature, la phusis. La phusis, Aristote, c'est quand même quelque chose de capital. Mais Gilson considère que cette distinction nature-forme et nature-matière, l'illéformisme, explique tout l'aristotélisme. Et c'est comme ça qu'il montre la différence entre Aristote et saint Thomas. Alors que nous sommes ici en face d'une distinction capitale, je suis tout à fait d'accord, elle est capitale, mais elle n'est pas première. Ce que Gilson n'a pas compris du tout. Et c'est là du reste, on voit très bien que Gilson n'a pas fréquenté beaucoup Aristote. Parce que quand on fréquente Aristote, on découvre quelque chose d'extrêmement important, c'est que toute la philosophie de la nature est commandée par l'art. Commandée, comprenez bien. En réalité, c'est dans la philosophie de l'œuvre qu'Aristote distingue forme et matière. Donc c'est déjà nature-forme, nature-matière, c'est déjà une transposition analogique de la première distinction pour Aristote. Et je crois ça très important pour nous. Si on veut rentrer dans l'aristotélisme, il faut entrer par l'art. C'est par là qu'on entre dans l'aristotélisme. C'est pour ça que pour nous, vous voyez, école Saint-Jean, c'est très important d'avoir une petite école d'art et de philosophie. C'est pas du tout contingent pour moi. C'est indispensable pour le monde d'aujourd'hui. Vous voyez, je vous dis ça tout de suite parce que je crois que c'est important. On aborde la physique d'Aristote aujourd'hui, depuis très longtemps, depuis saint Thomas. On l'aborde toujours en opposant les sciences physiques d'aujourd'hui et la physique d'Aristote. Donc, on l'aborde par une critique. La critique, par définition, est inféconde. Et donc, on n'arrivera jamais à redécouvrir la physique d'Aristote à partir des sciences physiques. Les sciences physiques nous donnent des lois et Aristote nous donne des principes. Ce qu'il faut, c'est comprendre que la philosophie de la nature, elle est une philosophie de la nature toujours dans une recherche de l'homme, et que c'est par là qu'on doit redécouvrir la philosophie de la nature. Ça m'a semblé très évident. Vous voyez ? Parce que les sciences physiques sont commandées par les mathématiques. Tout le monde le sait, ça. Et comme elles sont commandées par les mathématiques, pour Aristote, n'ont rien à dire avec la philosophie. N'ont rien à dire. Aristote ne fait pas la critique des mathématiques pour entrer en philosophie. Mais non. C'est dans le livre Muet Nu qu'il fait la critique des mathématiques. Et il fait la critique des mathématiques pour montrer très bien que les mathématiques, c'est autre chose. C'est le domaine de l'abstraction. Pas de jugement d'existence. Tandis que dans l'art, il y a un jugement d'existence. Et la distinction matière et forme, c'est une distinction qui se prend à partir de l'œuvre artistique. Et c'est dans l'œuvre artistique que nous avons le premier analogué de la distinction matière et forme. Ce qui est très très important. Oui, à partir de l'œuvre. Et on transpose ensuite, on passe de la connaissance pratique à la connaissance spéculative. Et ça, c'est très important. On fait une montée et non pas une descente. Pour toute la scolastique, on descend du spéculatif vers le pratique. Et par le fait même, on est platonicien. Néo-platonicien. Ça, c'est le platonicien, la descente. Aristote, c'est la montée. C'est la grande découverte, la grande montée du pratique, de l'œuvre artistique à la nature. Oui. Et là, c'est très proche de Valéry, Monsieur Test. On regarde un petit caillou. Est-ce que c'est l'œuvre de la nature ou est-ce que c'est l'œuvre d'art? La distinction entre ce qui est naturel et ce qui est artificiel, ce qui est l'œuvre d'art. L'œuvre d'art est première pour nous. Et de là, on découvre la nature. Ensuite, donc ça c'est une très grande découverte. Comme c'est une découverte extrêmement grande, vous savez bien, quand on découvre quelque chose, on a la tentation de l'universaliser. On est tous comme ça. Et Aristote est comme ça. De sorte que pour Aristote, la physique va contenir la philosophie du vivant. Et c'est là où on sent très bien qu'il y a un petit quelque chose qu'il faut corriger d'Aristote. Pour moi, la correction pour Aristote sera la philosophie du vivant. La philosophie première. Vous voyez ? Un, deux, trois. C'est évident que c'est encore une montée. Hein. On monte de l'art à la philosophie première, avec des échelons successifs. Hein. C'est évident qu'à côté de la philosophie pratique de l'art, il y aura la philosophie éthique, qui sera aussi pratique. La philosophie éthique va nous mettre en relation directe avec la philosophie première. Ça qui est très curieux. Ça c'est sûr. L'éthique, c'est la finalité. Tandis que la philosophie de l'art, c'est le sens de la forme. Un artiste, il a le sens de la forme. Il faut demander à l'artiste le sens de la forme. De l'aïdos. Il idéalise toujours un peu. Je n'ai aussi idéalisé l'artiste. C'est du reste très beau, hein. Un artiste qui n'idéaliserait plus la forme ne serait plus un artiste. C'est pour ça que l'artiste, facilement, il fricote avec les idoles. Parce que c'est ça le propre de l'artiste. C'est un petit peu ça. Formalisation. Hein, quelque chose de merveilleux, la forme. Le sens de la forme, c'est énorme. Oui, c'est ce que Platon a saisi. Platon, c'est le philosophe de la forme, quoi. C'est la forme qu'il a saisi. Hein. Et alors, Aristote, face à Platon, reconnaît le point de contact avec le platonisme par la philosophie de l'art, la poétique. C'est par là que Platon et Aristote se rejoignent. C'est dans l'eidos. Et Aristote a gardé le mot eidos. Tandis qu'ici, il met morphée. De l'eidos à la morphée. C'est quand même énorme, ce passage entre les deux. Vous voyez ? Et ça, je crois que c'est très important de le comprendre. L'eidos est toujours un peu idéalisé. La morphée, au contraire, elle est toujours incarnée. Elle est incarnée. Oui, l'eidos est d'abord... Vous voyez, Origène, il faut que l'âme soit d'abord vécue comme une eidos. C'est Platon, ça. Puis ensuite, on la remet dans la matière. Dieu nous a fourré dans la matière. Parce qu'on a péché. Alors, c'est à cause de ça qu'on est lié à la matière. Alors, pas du tout pour Aristote. Le point de vue de la morphée, elle est liée à la matière. Et alors, ici, c'est la découverte de l'âme. Il ne faut pas l'oublier. Philosophie du vivant. Alors, c'est là où je me pose le problème. Et c'est la philosophie de ce qui est. Vous voyez, si on est un tout petit peu le schème néoplatonicien qui viendra après Aristote, qui n'est pas entièrement dans Platon, dans Aristote, qui n'est pas entièrement dans Platon, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'intelligence, l'âme. Je crois qu'il faudrait mettre en parallèle. Ça n'a pas été assez fait, ça. Vous voyez ? Les trois, la triade aristotélicienne et la triade néoplatonicienne. L'un lié au bien, l'intellectus, le nous, et l'âme. Aristote ne fait pas tout à fait ça. Pour Aristote, c'est le devenir, ce qui est mu, ce qui est mu, ce qui se meut. Ce qui est. Vous voyez que c'est beaucoup plus proche de l'expérience. Parce que ce qui est mu, ce qui se meut, c'est l'expérience. Et le fondement des deux, ce qui est. Entre ce qui est mu et ce qui se meut, il y a quelque chose de commun, c'est que tous les deux existent. C'est l'être qui fait le lien. Mais ce qui est le vivant est comme un métaxion entre les deux. Et alors, Aristote, lui, parce qu'il est en face de cette découverte, va un peu projeter, vous voyez dans quel sens je vais le dire, la philosophie de la nature vis-à-vis du vivant. Nous, qui sommes plus lointains, nous comprenons que l'âme est la saisie d'un principe qui a une indépendance beaucoup plus grande de la matière que la nature forme. Il y a un tout petit peu, vous voyez, morphée eidos dans l'âme. L'âme est un peu eidos du corps. Et ce sera toute la découverte de saint Thomas, théologien, de montrer qu'il y a dans l'âme quelque chose qui est au-delà de la matière. Qui reste toujours au-delà de la matière, qui reste toujours un peu un idéal. Et ça, Aristote le saisit, mais le schème, là je peux dire le schème, nature-forme, nature-matière, va toujours un peu rester. Je crois que pour nous, qui essayons de reprendre une philosophie réaliste, on doit faire de la philosophie du vivant quelque chose de plus autonome, l'intermédiaire. Entre le devenir et l'être, c'est le vivant. Le vivant est d'une certaine manière une synthèse de ce qui est et de ce qui devient. Oui, alors, les trois moments d'Aristote restent tout à fait vrais. Mais il faut bien comprendre que la philosophie du vivant a quelque chose d'irréductible à la philosophie de la nature. Et c'est cet irréductible à l'égard de la philosophie de la nature qu'Aristote cherche. Comprend pas. Il le cherche. Et je crois qu'on peut aller plus loin qu'Aristote là-dessus. C'est là où il y a un progrès. Mais alors, vous voyez, hein, alors c'est ça qui serait intéressant à voir. C'est ça qui serait très intéressant à voir. Nous mettons toujours un peu l'opposition entre la philosophie du vivant et les sciences biologiques. Il faut bien. Ça, c'est une critique. Par définition, inféconde. Alors, quel est l'analogue de l'art qui nous fait entrer dans la philosophie de la nature, l'analogue pour la philosophie du vivant? Vous voyez ce que je veux dire? L'art, distinction de la forme et de la matière, nous aide à découvrir l'illéformisme, nature-matière, nature-forme. Y a-t-il, pour le vivant et pour la saisie du vivant, un analogue dans l'ordre pratique à la philosophie du vivant? Je pose la question. Et on doit se poser la question. C'est beaucoup moins net. Parce que on va retrouver toujours l'analogie de l'art pour la philosophie du vivant. Oui.
Je ne veux pas pour la physique distinguer les arts qui impliquent une œuvre extérieure et les arts qui sont liés directement au corps de l'homme.
Je crois que ce seraient les arts qui sont liés au corps de l'homme. C'était ars coadjuvans naturam. Vous voyez ? La médecine, l'éducation, la danse. Ce sont des arts dont l'œuvre est immanente. Et l'art dont les œuvres sont immanentes doit nous aider à comprendre la philosophie du vivant. Parce que la philosophie du vivant, qu'est-ce que c'est? C'est la victoire de l'aïdos sur la matière. C'est ça la vie. C'est la victoire de l'aïdos sur la matière. Et donc, on est en face d'une immanence. Le vivant, c'est celui... Alors, Bergson dira la durée. Vous voyez, personne n'a saisi quelque chose quand il dit la durée. La durée, c'est la victoire de l'âme sur le temps. Et c'est par le point de vue du temps. Il faut aller plus loin. Il faut la victoire de l'âme sur la succession du devenir. Le devenir est successif. Le vivant demeure. Et là, vous voyez, cette grande vision aristotélicienne qui a été reprise du raison néoplatonisme, cette grande vision que la génération est une victoire sur le temps et c'est l'écho de l'éternité. Il y a un écho d'éternité dans le vivant, c'est que l'espèce dure, l'espèce est victorieuse du temps. Alors c'est ça que je voudrais trouver. Ça nous aiderait, je crois, beaucoup à structurer la philosophie du vivant. En comprenant bien qu'il faut donner à la philosophie du vivant, aujourd'hui, une indépendance plus grande par rapport à la physique d'Aristote, qu'Aristote ne l'a montré. Il l'a découvert, en partie, mais pas totalement, par le sémodéré. Le vivant, c'est celui qui se meurt. Donc, causalité efficiente. Le vivant, c'est celui qui se meurt. Donc, il y a une indépendance, une autonomie du côté de l'efficience. Mais cette autonomie du côté de l'efficience s'enracine dans la forme, forcément. Puisque c'est la forme qui est le principe. Operatio sequitur esse. Donc c'est la forme qui implique une indépendance plus grande. qu'on a dans le vivant. Il domine la matière. Il est victorieux de la matière. Alors on doit pouvoir découvrir ça. Alors peut-être, vous voyez, je dis peut-être, qu'il y aurait une analogie à prendre par rapport au ciel éthique. Vous voyez, le vivant le plus parfait, c'est l'homme. Aristote a bien saisi ça, qu'au fond, l'autonomie de la philosophie du vivant se prenait avec le péripsuchès. La psuché, l'âme. Et c'est l'âme humaine que je saisis d'une manière unique. Vous voyez, l'âme humaine, je la saisis d'une façon unique parce que l'âme humaine peut se saisir de l'intérieur. Or, qu'est-ce qu'on saisit de l'intérieur ? Connais-toi toi-même. Hein ? Le mot d'ordre donné à Delphes. Connais-toi toi-même. C'est l'éthique. Alors, y a-t-il une double analogie ? Je pose la question, hein ? Je cherche. Y a-t-il une double analogie ? L'art. Immanent. L'art immanent ne peut pas se séparer de l'éthique, la bioéthique. On voudrait aujourd'hui comprendre les sciences biologiques complètement en dehors de l'éthique. Alors on ne comprend plus ce que c'est que la vie. La vie est liée à l'éthique, la vie humaine. Et la vie ne la saisit que par la vie humaine. Alors, n'y a-t-il pas déjà cette double analogie de l'éthique et de l'art pour comprendre la philosophie du vivant ? Parce que ce s'émovere à cause efficiente est lié à la finalité. Et par la finalité, c'est l'éthique. Or, le vivant se meut. Mais il se meut en tant qu'il a en lui la marque de la fin. On est en face d'un ordre dynamique, orienté. Donc, la finalité est présente dans l'efficience. Et ça explique la double analogie, l'art et l'éthique. Il y a deux analogies qui commandent le point de vue de la philosophie du vivant.
Est-ce qu'on n'aurait pas un signe en fait que les arts immanents comme la danse sont les seuls où il y a une recherche au point de vue spirituel entre guillemets ?
Oui, oui. Point de vue éthique. Vous voyez, spirituel dans le sens éthique, parce que l'art est spirituel.
Est-ce que dans un ordre pédagogique, justement, les gens qui ont un peu perdu le sens de la finalité, est-ce qu'il faut mieux commencer par une œuvre extérieure pour montrer une norme, et puis après les orienter vers une recherche justement de la danse ou de quelque chose qui leur éduque le corps avant d'aller vers l'éthique ? Ou est-ce qu'il faut déjà commencer par quelque chose qui est plus immanent ?
Je crois qu'il faut montrer que tout de suite, l'éthique est présente dans le vivant, analogiquement. Vous voyez ? C'est ça qui m'intéresse, vous voyez ? Si on veut retrouver le génie aristotélicien qui a été massacré par la scolastique. Ça, j'en suis persuadé de plus en plus. Pas à cause de saint Thomas, hein. À cause d'Occam, à cause de Suarez. Ça a été massacré puisque c'était textuellement dans les plus grands scolastiques. Dans les plus grands scolastiques, Jean de saint Thomas. Moi, j'aimerais reprendre Jean de saint Thomas maintenant. Jean de Saint-Thomas m'a éduqué, maintenant je le critiquerai. Venez. Parce que dans Jean de Saint-Thomas, c'est dit textuellement que la connaissance pratique se fait à partir du spéculatif qui, dans son application, devient pratique. Et le père Garrigou-Lagrange le dit textuellement. Le père Garrigou-Lagrange, dernier témoin de la grande scolastique. Garrigou-Lagrange et Ramirez, les deux grands témoins de la scolastique. Parce que c'est très important de comprendre ça. Ça fait comprendre, vous voyez, la réaction violente quantité de théologiens contre la scolastique et contre saint Thomas. Il y a quelque chose là-dedans qu'il faut chercher. Pourquoi sont-ils en réaction? Et pourquoi se sont-ils précipités dans la philosophie de la fémologie? Tête baissée. Il faut comprendre pourquoi ça. Si on ne le comprend pas, on ne pourra pas réagir bien. Alors, il faut comprendre. Et je vous dis ce que le Père Dehaut rappelait tout le temps. Parce que c'était extensionné, et puis l'édition Vivette fait extensionné. Et alors, le Père Dehaut disait toujours la larme de la veuve. Vous voyez ? La connaissance spéculative devient pratique en s'étendant extensionné. C'est énorme. Et alors, il y avait justement là une faute en s'éteignant. C'est ça qui est extraordinaire. C'est de ces hasards. Hein. La connaissance spéculative en s'éteignant devient pratique. C'est tellement ça. Alors que nous devons nous comprendre que la connaissance pratique, la philosophie pratique, est première génétique. Et on remonte de la connaissance pratique à la connaissance spéculative. C'est capital pour nous de comprendre ça. Parce que depuis Hegel, depuis Marx, depuis Freud, il n'y a plus de connaissance spéculative. Dans l'Église, aujourd'hui, il y a des quantités de philosophes et de théologiens qui ne savent plus ce que c'est que la connaissance spéculative. Nous devons donc redécouvrir la connaissance spéculative à partir de la dialectique. Oui.
Est-ce qu'on dirait que c'est la première naissance de l'analogie, le passage du pratique au spéculatif?
Oui, c'est-à-dire, je dirais que l'analogie est déjà présente dans la connaissance pratique. Mais elle s'explicite parfaitement là. Elle est déjà présente. Vous voyez? Elle est présente dès que vous distinguez matière et forme. Je dirais que l'analogie prend naissance la distinction matière et forme. Matière, forme, finalité. Il y a un ordre analogique et puis il y a une proportion analogique. L'ordre analogique, c'est matière et forme, et l'aspect proportion analogique, c'est la finalité. Mais elle est déjà présente, mais elle est parfaitement explicitée dans la connaissance spéculative. Ce qui est très important, je crois, c'est de montrer cette voie ascendante et de découvrir. Alors là, je dis de découvrir parce que il faut le découvrir, que la philosophie du vivant, comme la philosophie de la nature, présuppose la philosophie pratique. Et donc, si je suis obligé, moi, de faire grande attention aux sciences biologiques et à la physique. Je dis que ce n'est pas la science biologique qui me fera découvrir la philosophie nature, la philosophie du vivant d'Aristote. Au contraire, ce n'est pas la physique. La critique est inféconde. Ça, c'est évident. Donc, ce n'est pas la critique qui me fait donner des analogies. Il faut redécouvrir le point de vue premier de la philosophie pratique. L'art. L'éthique ne nous dit rien de la physique. Mais l'éthique nous dit quelque chose de la biologie. Ah, ce que je voudrais qu'on puisse découvrir ensemble. Ça serait très intéressant. Parce que ça me semble très important. Alors, continuons cette lecture de ce premier livre. je reprends un peu plus haut, il n'est pas possible non plus. Ainsi, parce que la santé de l'homme, vous voyez que Aristote se sert toujours de l'art, hein, et de l'art immanent la médecine. La médecine est pour Aristote avant tout un art, parce que c'est une connaissance spéculaire, c'est une connaissance pratique. On demande aux médecins de guérir quand même, hein, de faire, permettre que de guérir. Un médecin qui n'aurait aucun résultat, c'est la grande critique qu'on fait au freudisme et à la psychanalyse. Il n'y a pas de résultat. Combien de psychanalystes ont-ils guéri leurs malades? Et combien de suicides ont suivi l'analyse psychanalytique freudienne? Tous les malades que vous avez vus qui ont subi, du moins si vous en avez vu, moi j'en ai vu, qui ont subi l'analyse freudienne, c'est exactement l'image que je vous donne. Nous avons tous fait cette expérience quand on était gosses. La première montre qu'on nous a donnée, on a dévissé tous les écrous. Moi j'ai fait la chose. J'ai dévissé tous les écrous, ça m'intéressait de voir ce qu'il y avait dedans, quoi. Si on est curieux. Curieux, tic-tac, comment ça marche? Il se meut. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dévisse. Pour voir marquer, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je désire découvrir l'âme de la montre. Et bien après, quand on a eu tous les échos dévissés, il faut la remonter. Ah, on l'a pas pu la remonter. J'ai pas su la remonter. Ça, j'avoue. Parce que j'avais été pas assez prudent. J'aurais dû saisir un ordre. Puis reprendre l'ordre inverse. L'année le retour, vous savez, c'est petit poussé. Petit poussé, on fait l'aller. Puis on oublie de mettre les petits cailloux. Il faut déjà que le petit poussé ait une certaine expérience pour mettre les petits cailloux. Parce que la première fois, on ne met pas les petits cailloux. Et le retour est tout à fait différent. L'aller le retour. Aller de Sparte à Athènes ou d'Athènes à Sparte, c'est pas la même chose. Parce qu'on a des yeux devant, il n'y en a pas des yeux derrière. Malheureusement, il faudrait quatre. La Providence ne vous a donné que deux. Il faudrait avoir quatre. Je pense qu'on verrait en plus, mais on verrait l'aller-retour. Ouais, c'est tout à fait autre chose de regarder devant et de regarder derrière. On a tous fait cette expérience, vous savez bien. De regarder par derrière en mettant sa tête en dessous de ses pieds, puis voir par derrière le fou le camp. C'est tout à fait différent. C'est une vision tout à fait différente. Alors quand on dévisse, l'analyse dévisse ses écrous. Puis après, elle ne remonte rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on a un mode analytique. Alors que l'art est un mode compositif. On compose en l'artiste. L'artiste compose. Et le savant analyse. Alors, il faut de la science, il faut de la connaissance, mais la médecine est un art. On recompose la santé. Et c'est cette confusion terrible de notre monde d'aujourd'hui entre l'art et la science. Donc, connaissance pratique, connaissance spéculative. On sait plus ce que c'est. Et ça, c'est la dialectique. La dialectique fait la confusion. Alors, il faut bien saisir ça. Pour Aristote, la médecine est un art. Et alors, ce qui est très curieux, vous voyez, pour connaître ce que c'est que la philosophie du vivant, on fait appel à la médecine. Ah ! Vous voyez, redécouvrez l'art médical pour découvrir la philosophie du vivant d'Aristote. Et ne faites pas appel à la science biologique. Là, vous saisissez le nerf. Vous voyez ? Vous avez l'art. L'art du sculpteur, l'art de l'architecte qui fait comprendre la philosophie de la nature. Et vous avez l'art médical qui fait saisir la philosophie du vivant. Ainsi, c'est parce que, alors, soulignez dans votre petite enquête, chaque fois qu'Aristote parle de la médecine, et vous verrez que ça vient constamment. Ça serait intéressant pour montrer le test à ceux qui font toujours la comparaison entre les sciences biologiques et la philosophie de la nature, la philosophie du vivant d'Aristote. Et qui croit rejoindre la philosophie du vivant par la biologie moderne. Ils ne la rejoindront jamais. C'est un autre monde, une autre planète. Ainsi, c'est parce que la santé de l'homme est telle chose qu'il est nécessaire que telle chose existe ou se produise. Et ce n'est pas parce que telle chose existe ou se produise que nécessairement la santé s'en suivra. Tout est là. Hein. Pour la psychanalyse, ce serait merveilleux, parce qu'il faut servir de la psychanalyse. Pour montrer les bêtises de la psychanalyse. Pour montrer que la psychanalyse est peut-être très intelligente, mais elle ne peut pas donner la santé. Elle ne peut pas donner l'équilibre. Parce que vous ne donnerez jamais la santé à quelqu'un par la science. La santé, c'est du concret. C'est une harmonie. Qui existe en nous. Il n'est pas possible non plus de ramener à l'éternel la nécessité d'une démonstration de ce genre, de manière à pouvoir dire que, puisque telle chose existe, cela a été précisé ailleurs. De même qu'ont été déterminés les êtres où se rencontrent nécessité et réciprocité, et pour quelle cause. Mais ce qu'on ne doit pas passer sous silence, c'est la question de savoir s'il faut exposer, comme ont fait nos prédécesseurs dans cette étude, plutôt la jeunesse des êtres que leur constitution. On ne doit pas passer sous silence. Donc c'est capital ça. La question de savoir s'il faut exposer, comme ont fait nos prédécesseurs dans cette étude, plutôt la génésis des êtres que leur constitution. La génésis, c'est l'ordre du devenir. C'est l'ordre de l'imparfait vers le parfait. La constitution, c'est l'analyse. Vous voyez ? Donc c'est ça qui est important, à ne pas passer sous silence. Plutôt la jeunesse des êtres que leur constitution. Car la différence n'est pas petite entre les deux procédés. Ça c'est gentil de la part d'Aristote. Il y a un abîme entre les deux. Donc la différence n'est pas petite. Vous ne rejoindrez jamais la génésis par la constitution, par la structure. Jamais. La finalité, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'on joint la finalité? C'est dans la génésis et non pas dans la structure. Il semble donc que le point de départ doit être, comme on l'a dit précédemment, de recueillir les faits en chaque genre pour exposer ensuite leur cause. Et enfin leur jeunesse. La jeunesse, c'est l'ordre du comment. Ce n'est pas de l'ordre de l'analyse. C'est cet ordre qui s'impose plus manifestement, en effet, dans l'art de construire lui-même. Et c'est parce que la forme de la maison est telle chose, parce que la maison est telle chose qu'elle est produite de telle manière. Donc l'art médical et l'art architectural, les deux arts qui sont mentionnés ici. Car la genèse est en raison de la réalité et non la réalité en raison de la genèse. Ça aussi c'est important à voir. Donc réfléchissez un instant là-dessus. Parce que la génésis est en raison de la réalité. La jeunesse, donc le devenir, est ordonné à l'être. La réalité. Existante. Le sens, la signification de la genèse, de la génésis, c'est la réalité existante. On se rappelait là. Tout devenir est en fonction de l'essai. Toujours en vue de l'essai. Donc, la genèse est en raison de la réalité et non la réalité en raison de la genèse. Et non pas la réalité en fonction de la génésis. L'imparfait est pour le parfait. Et non pas le parfait pour l'imparfait. J'explique, vous comprenez bien, j'explique le Nouveau Testament par l'Ancien Testament. Donc j'explique le parfait par l'imparfait. Donc vous n'y comprendrez rien. C'est le parfait qui fait comprendre l'imparfait. La méthode théologique consiste à regarder le Nouveau Testament et le Nouveau Testament, je comprends l'imparfait. C'est pas l'imparfait qui m'explique le parfait. Mais une fois que j'ai compris le parfait, je peux comprendre ce que c'est que la théologie biblique, c'est cette tension vers le parfait. C'est cet appel, il y a un appel. Un cri. Tout l'Ancien Testament écrit vers le parfait. Et je n'explique pas le parfait par l'imparfait. Une fois que vous avez compris ça, il n'y a plus de danger. Il n'y a plus de danger d'être bête. Vous voyez ? On devient intelligent, quoi. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde répète la bêtise. Sans avoir pensé un seul instant. Sur cette petite phrase d'Aristote. C'est dit depuis 2000 ans, ça. C'est très enfoui. Et vous regarderiez la science biologique d'aujourd'hui, vous verriez que c'est l'imparfait qui veut expliquer le parfait. Vous voulez expliquer la vie par l'élément vital, ce que fait... L'ADN explique la vie. Mais non, l'élément n'explique pas la vie, je regrette. Le parfait implique l'imparfait, mais l'imparfait n'explique pas le parfait. Et c'est pour ça qu'une fois que j'ai cette réflexion, alors après, je n'ai plus qu'une seule chose, je donne ma langue au chat, c'est-à-dire je dis le hasard. À la nécessité. Et c'est dit textuellement, ça. Et personne ne relève ça. Personne ne dit qu'on veut expliquer le parfait par l'imparfait. Par l'élémentaire. L'élémentaire, jusque maintenant, ça a toujours été l'imparfait. Un enfant qui apprend à lire, c'est l'élémentaire. A, A, A. Mais A, A, A n'explique pas. Un mot, ça n'explique même pas pas. Si vous mettez A, 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 ça n'explique pas pas. Pas explique A, A, A. Mais A, A, A n'explique pas pas. Aristote dit ça. Vous savez, c'est très curieux. Alors, soulignez ça trois fois, hein. Puis ça, c'est très important, c'est tout l'aristotélisme qui est là. Dans ce qu'il a de génial, c'est la genèse. Car la genèse est en raison de la réalité, et non la réalité en fonction de la genèse. Donc vous direz, la semence est en raison de la personne humaine, et non la personne humaine en fonction de la semence. Le gland est pour le chêne, et non pas le chêne pour le gland. C'est pourquoi Empédocle s'est trompé. Il n'y a pas qu'Empédocle. C'est pourquoi Empédocle s'est trompé. Donc, de l'intérêt de regarder Empédocle. En disant que beaucoup de traits se rencontrent chez les animaux parce que cela est arrivé ainsi dans le processus de genèse. Par exemple, ils ont l'épine dorsale ainsi faite parce que dans un mouvement de torsion, il est arrivé de se briser. C'est merveilleux. Mais l'accident explique la réalité. Alors que non. L'accident provient de la matière. Il oublie, en premier lieu, qu'il faut que le sperme constituant possède une puissance appropriée. La forme virtuelle. Ensuite, que le producteur doit exister avant le produit. Donc avant le hasard, il y a le producteur. C'est pas le hasard.